France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Xavier Atto, Dalia et Olivier Dehay. Voici la deuxième émission de notre série consacrée au chef d'orchestre hongrois Ivan Fischer, un mois après son 70e anniversaire. Et nous allons retrouver, comme hier et comme ce sera le cas jusqu'à vendredi, peu ou prou, la même structure d'émission de Mozart à Bartok, en passant dans l'ordre chronologique par Beethoven, Schubert, Liszt, Brahms, Dvorak, Mahler et Kodály. Mozart nous permet tout d'abord de retrouver Ivan Fischer à la tête de l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam dans un extrait de Jupiter, autrement dit la 41e symphonie de Mozart.
Thank you.
novembre 2009. Ivan Fischer dirigeait l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam dans la 41e symphonie, la symphonie Jupiter, Köchel 551 de Mozart, dont c'était le troisième mouvement Menuetto. Et nous allons revenir à cet orchestre du Festival de Budapest qu'il a fondé avec le pianiste Zoltán Kocsis en 1983 et qui fait l'essentiel de sa discographie. Ce n'est certes pas un orchestre commun, disait-il en 1998 à Éric Dahan dans Libération. Quand j'ai fondé en 1983 cet orchestre, j'ai d'abord cherché à réunir les meilleurs musiciens du pays afin de tenter avec eux quelques projets. Mais aussi, paradoxal que cela puisse paraître, plus l'orchestre a commencé à avoir du succès et plus il est devenu difficile de maintenir ses musiciens ensemble. Voilà pourquoi il a été décidé en 1992 d'en faire une structure permanente. Et ma démarche n'est pas celle d'un chef qui dicte à ses musiciens ce qu'ils doivent jouer, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont libres de décider ce qu'ils veulent faire. Simplement, au lieu de plier une symphonie en deux ou trois après-midi, on prend tout le temps qu'il faut en répétition pour que chacun découvre par lui-même ce qu'il convient de jouer. Plutôt que grand professeur, je me vois en fait comme un metteur en scène qui laisse ses comédiens travailler leur scène ensemble et discuter des options possibles. J'essaie d'appliquer l'enseignement de Stanislavski à la musique afin de construire cette dernière de l'intérieur. Pas question que le musicien s'asseye et attende des instructions extérieures. Il doit à chaque instant développer sa créativité. Plutôt que de l'assommer de travail d'orchestre, on lui donne le temps de travailler des programmes de chambre ou des solos. On voit l'échec des méthodes traditionnelles qui ne fabriquent plus des musiciens mais des robots. Comment attendre autre chose que des clichés de musiciens dont on n'encourage jamais la créativité? Les musiciens de mon orchestre ont tous les droits, sauf celui de devenir gris. février 2017, au Palais des Arts de Budapest, Ivan Fischer dirigeait ses musiciens du Budapesti Festival Zenekar, l'orchestre du Festival de Budapest, dans la première symphonie de Beethoven dont c'était le final. Enregistré donc en 2017 pour la firme Channel Classics, Ivan Fischer qui se faisait ici le digne héritier de Nikolaus Harnoncourt, dont il a été plusieurs années l'assistant à Zurich. En 1978 par exemple, c'est Ivan Fischer qui tenait le clavecin dans l'Orfeo de Monteverdi, dirigé à Zurich par Harnoncourt dans une mise en scène de Jean-Pierre Ponel. Nous allons les retrouver, Ivan Fischer et l'orchestre du Festival de Budapest, dans un autre classique de répertoire symphonique, c'est la Symphonie inachevée de Franz Schubert, Deutsch 759, dont voici le deuxième mouvement, Andante con moto.
Thank you.
1984, l'orchestre du Festival de Budapest était encore un bébé d'un an, mais ses musiciens, avec à leur tête le chef fondateur Ivan Fischer, jouaient déjà de main de maître cette inachevée de Schubert 8e symphonie en si mineur Deutsch 759, dont c'était le deuxième mouvement.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Nous allons faire comme hier, faire succéder Liszt à Schubert. Hier, nous avions entendu la troisième rhapsodie hongroise de Franz Liszt avec des musiciens tziganes. Bien, nous allons continuer de danser avec maintenant la première Mephistovals, inspirée du Faust de Nikolaus Lenau, partition qui s'intitule également Der Tanz in der Dorfschenke, la danse à l'auberge du village. C'est toujours l'orchestre du Festival de Budapest et Ivan Fischer qu'on entend dans cette partition pour laquelle Liszt a repris ce texte de Nikolaus Lenau dans une auberge villageoise, un banquet de mariage a lieu avec musique, danse et libation. Mephistopheles, passant devant avec Faust, pousse celui-ci à participer aux festivités. Le diable attrape un violon des mains d'un violoniste endormi et en tire une étrange mélodie, séduisante et envoûtante. Amoureux, Faust tourbillonne dans la salle au bras d'une belle et plutôt gironde villageoise dans une danse effrénée. S'abandonnant l'un et l'autre, ils valsent jusque dans la forêt. Le son du violon devient de plus en plus ténu. Un rossignol entonne une chanson emplie d'amour. Thank you. Tanz in der Dorfschenke, la danse dans l'auberge, la première Mephistovals de Franz Liszt interprétée par l'orchestre du Festival de Budapest dirigé par Ivan Fischer. Voilà un disque qui était paru chez Harmonia Mundi et qui avait été enregistré en décembre 1991 à Budapest. Alors hier, je vous avais proposé d'écouter la troisième rhapsodie hongroise de Franz Liszt avec des musiciens tziganes qui rajoutaient leur cadence et qui rappelaient que ce sont à travers les tziganes et les métamorphoses tziganes que Franz Liszt et Johannes Brahms ont découvert la musique traditionnelle hongroise. Il ne faudra attendre le début du XXe siècle pour des gens comme Kodály ou Bartók aillent au fin fond des campagnes pour trouver des paysans hongrois, entendre une musique tout à fait différente, beaucoup plus campagnarde, et pas cette musique urbaine qu'entendaient les touristes à Budapest. Et bien voici des danses hongroises de Brahms, en tout cas une danse hongroise de Brahms que Ivan Fischer a enregistrée en 2013. Mais auparavant, il a demandé à des musiciens de restituer la mélodie populaire originelle de la région de Sek ou Sikt, on prononce ça différemment selon qu'on parle hongrois ou roumain, c'est une localité d'origine hongroise qui se trouve aujourd'hui, vu les découpages de l'après-première guerre mondiale, en Roumanie. Vous allez donc entendre la version originale de cette mélodie que Brahms a utilisée dans sa danse hongroise numéro 3. Thank you. La troisième danse hongroise de Johannes Brahms, c'était l'orchestre du Festival de Budapest dirigé par Ivan Fischer.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Ivan Fischer, on l'entend, est très attaché aux sources populaires de ses partitions d'Europe centrale, que ce soit celle de Bartok, de Brahms ou encore de Liszt ou de Dvorak. On entendait hier deux danses slaves de Dvorak, les deux septièmes danses. Et bien voici de nouveau Dvorak avec un concerto pour violoncelle qui nous permet d'entendre un artiste anglais, Peter Whispelvey. Il s'agit là justement d'un concerto qui a été créé à Londres en 1896 avec le violoncelliste Hanush Vihan. C'est l'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature pour violoncelle que ce concerto opus 104 que Dvorak a conçu pendant son séjour aux États-Unis en 1895. Un concerto dont voici le mouvement central.
Thank you.
Ce sont probablement des beaux paysages de l'Est américain qui ont inspiré Dvorak dans cette partition, mouvement central de son concerto pour violoncelle, interprété par le violoncelliste néerlandais Peter Wispelwey, qui est né à Haarlem, aux Pays-Bas, en 1962, et qui jouait ici avec l'orchestre du Festival de Budapest, dirigé par Ivan Fischer. Alors, comme hier, c'est le moment de retrouver Gustav Mahler, dont Ivan Fischer est un grand interprète avec la 5e symphonie, la plus juive de ses symphonies, écrit Ivan Fischer. Le premier mouvement, je le cite, nous conduit sans équivoque dans l'atmosphère d'une lamentation juive, le final dans la vision puérile d'un bonheur messianique. Bien entendu, Mahler s'est converti au catholicisme. Les points de vue peuvent toutefois diverger lorsqu'on se demande si sa décision a été opportuniste ou fondée sur une conviction religieuse. La foi chrétienne jouait un rôle important dans d'autres œuvres de Mahler, mais pas dans celle-ci. Permettez-moi, s'il vous plaît, de me référer brièvement à ma propre famille. Mes aïeux étaient, tout comme ceux de Mahler, commerçants dans un petit shtetl de l'Empire habsbourgeois. Ils étaient juifs pratiquants. Mon grand-père, âgé de 3 ans de plus que Mahler, a décidé d'abandonner ce mode de vie lorsqu'il est allé faire ses études à Vienne. Mon père et ses frères n'ont reçu aucune éducation religieuse. Ils adoraient Goethe, Mozart, Beethoven et Richard Wagner. L'un des 4 frères s'est converti au catholicisme lorsqu'il s'est marié avec la fille d'une famille convertie. Plus tard, sous l'occupation nazie, lorsqu'il a semblé à un certain moment qu'une conversion pouvait aider à éviter la déportation, 2 de mes oncles et une tante sont devenus catholiques. Cela n'a pas été le cas des autres membres de la famille. Je n'ai jamais discuté avec eux pour tenter de savoir si ces décisions avaient été opportunistes ou non. Elles étaient considérées comme non importantes, personnelles, imposées en partie par un ensemble de circonstances. Convertis ou non convertis, personne ne pratiquait aucune religion. Tous adoraient la culture et tous fredonnaient des mélodies telles que celles de la 5e symphonie de Gustav Mahler. C'était en septembre 2012 au Palais des Arts de Budapest, la capitale hongroise où Gustav Mahler a été directeur de l'opéra pendant 2-3 ans à la fin des années 1880. L'orchestre du Festival de Budapest était dirigé par Ivan Fischer dans cet extrait de la 5e symphonie en do dièse mineur de Gustav Mahler, le célébrissime Adagietto.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors après la mélancolie de Mahler, voici les éclats de rire de Zoltán Kodály dans une partition qui nous rappelle que cette année 2021 sera l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, décédé sur son rocher de Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Il sera question de ça dans une semaine d'arabesque autour de l'anniversaire, avec les œuvres célébrant Napoléon et puis les œuvres également se moquant de Napoléon, comme ce Harry Janosch qui s'inspire d'une œuvre du 19e siècle, le vétéran de l'écrivain Janosch Garay. Et c'est une sorte de Tartarin de Tarascon hongrois, un fort en gueule qui prétend avoir mis à genoux Napoléon et avoir mis son épouse Marie-Louise dans son lit. Voici un extrait de cette partition avec un merveilleux intermezzo qui nous permet d'entendre un cymbalum. Mais tout d'abord, c'est la bataille et la défaite de Napoléon par Harry Janosch, musique de Zoltán Kodály. Un extrait de Hari János de Zoltán Kodály par l'orchestre du festival de Budapest dirigé par Ivan Fischer, partition de 1926, qui est donc strictement contemporaine de ce premier concerto pour piano de Béla Bartók que nous allons entendre par les mêmes interprètes et puis par l'un des cofondateurs de cet orchestre, le pianiste Zoltán Kocsis.
Thank you.
Premier mouvement du premier concerto pour piano de Béla Bartók par l'orchestre du Festival de Budapest et ses deux cofondateurs, le chef d'orchestre Ivan Fischer et le pianiste Zoltán Kocsis.
À réécouter sur francemusique.fr.